Bonjour à tous. Je suis venue équipée parce que, étant donné le temps ces derniers jours, on ne sait jamais quand il va se mettre à pleuvoir. Donc, je suis bien équipée. Et bonne fête au Père, au Papa parmi nous. Et dans la Bible, l'image du Père qu'on trouve, c'est d'abord, c'est pas un Père sévère, c'est le Père qui prend plaisir dans son fils, dans ses enfants. C'est le père qui prend le petit enfant sur ses genoux et c'est qui exprime tout son amour. C'est ça la première image du père qu'on trouve dans l'Écriture. Donc bonne fête à tous les pères qui sont là ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'un texte biblique vraiment très connu. C'est vrai, il y a ces textes dans la Bible qu'on a tendance à réserver à des moments particuliers ou à des auditoires particuliers. Par exemple, Déborah, on va parler de Déborah dans une réunion de femmes, ou bien tous les textes de Noël, on va les sortir à Noël. Alors que tous les textes de la Bible sont inspirés. La Bible tout entière, c'est pour tous les jours, c'est pour chaque jour, la Bible tout entière. Donc aujourd'hui, on va prendre un texte qui est souvent réservé aux enfants. Il y a, je pense, des diapos qui vont avec le message. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de Noé. Qui connaît l'histoire biblique de Noé? Voilà. Elle est connue dans le monde entier. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne sont pas chrétiens, tout le monde connaît l'histoire de Noé. C'est une histoire quasi mythique. Depuis l'âge de bronze, depuis les temps les plus reculés, et un grand nombre de cultures ont leur propre histoire de Noé ou d'un déluge envoyé par les dieux comme une rétribution dans les cultures du Moyen-Orient jusqu'aux Amériques, en passant par la Chine, l'Iran, l'Inde. Toutes ces cultures ont leur version du déluge. Et c'est exactement ce à quoi on s'attendrait s'il s'agit d'un événement historique, authentique, n'est-ce pas? Et nous considérons le texte de la Genèse comme un récit inspiré de Dieu. Et on pourrait dire, nous avons par la grâce de Dieu la version officielle. Et ce déluge reste dans quelque part, d'une part, dans des histoires, ça reste quand même dans le souvenir collectif de toute l'humanité. Donc, ce premier livre de la Bible, c'est un texte où Dieu se révèle. Il se révèle comme le Créateur et il révèle son plan pour l'humanité. Genèse fait le diagnostic de tout ce qui va mal sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'auteur de l'Ecclésiaste. Et tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, les causes, les racines, les conséquences des problèmes internationaux auxquels l'humanité essaie de faire face actuellement, toutes ces choses-là, tout ce que nous observons, trouve déjà son explication, son diagnostic dans les premières pages de la Bible. C'est vraiment un texte magnifique qu'il ne faut pas laisser juste aux enfants. Donc, qui est Noé? Je crois que j'ai un diapo qui pose cette question. Voilà. Il y a un problème. Noé, on le trouve d'abord dans la première généalogie de la Bible, celle d'Adam et Ève. Noé était l'arrière petit-fils d'Adam et Ève. Il est donc il apparaît dans la 10e génération après la création. Voilà, on a trouvé. Et donc 10 générations avant lui, ses arrière-arrière, etc., grands-parents, Adam et Ève, avaient désobéi à Dieu, comme on le sait, et le péché est entré dans le cœur de l'humanité. Un peu comme un ver peut entrer dans un beau fruit, dans une belle pomme, et petit à petit le détruire, le pourrir de l'intérieur. En mangeant le fruit que Dieu leur avait défendu, les arrière, etc., grands-parents de Noé, ont pensé devenir les dieux de leur propre vie. Ils pensaient avoir la liberté totale de faire tout ce qu'ils avaient envie de faire au moment où ils avaient envie de le faire. Et si on réfléchit un peu, beaucoup de gens rêvent de cela. C'est même un idéal si on réfléchit honnêtement pour la plupart d'entre nous. Faire tout ce qu'on a envie de faire sans que quelqu'un nous dise non ou nous empêche de le faire. Voilà, c'est l'individualisme de notre société aujourd'hui. Pour Adam et Ève, voilà, on connaît, ça a été le désastre. Leur relation avec Dieu s'est cassée et ça s'est senti dans leur vie de famille puisque le péché a suscité la jalousie dans le cœur de Caïn, leur premier fils qui a tué leur deuxième fils, Abel. Et Caïn, il est devenu un vagabond sur la terre. Il errait ça et là, il essayait pas de construire une vie utile. On pourrait prendre l'image de la brique taillée. Il est resté toute sa vie brute de pomme. Il n'a pas essayé de construire quelque chose. Il vivait selon les envies du moment. En fait, il est resté comme un tout petit qui piquait. Voilà, ces crises de rage qui n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Il était égoïste, immature. Il piquait une crise de rage quand on a 3 ans parce qu'on n'a pas eu la glace qu'on voulait ou on nous a empêchés de faire quelque chose. Quand on a 3 ans, c'est normal. C'est même un passage obligatoire pour apprendre à exister. Mais si ça persiste jusqu'à l'âge adulte, il y a un petit problème. Et c'était le problème de Caïn, de pas arriver à la maturité, de rester toujours égoïste et centré sur lui-même. C'est le drame de l'humanité. Et après le meurtre d'Abel, Adam et Ève vont avoir un troisième fils, Seth. Dans le prochain diapo, on le lit, Genèse 4, verset 25. Ève mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth, attribué, car elle dit, « Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. » Ève nomme son fils en reconnaissant que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui est maître de la vie. Elle pense sans doute à ce que Dieu avait annoncé juste après la chute, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Vous vous souvenez ? Genèse 3, verset 16. Donc, et en effet, la descendance de son troisième fils, Seth, va être bénie. Et d'où vient cette bénédiction de Dieu sur cette lignée, la descendance de Seth, de la promesse de Dieu qu'on vient de citer. Mais on lit aussi dans le prochain verset, verset 26, de Seth aussi naquit une fils, qu'il appela du nom d'Enoch. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Enoch ici ce matin? Non. On ne parle pas souvent d'Enoch. Mais c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Donc le péché est toujours là dans le cœur de l'humanité. Mais avec le souvenir d'avoir été chassé du jardin d'Éden, mais de la présence de Dieu, mais maintenant l'humanité commence à prier, à se tourner vers le Dieu créateur. On sait, les sociologues, les universitaires diraient, voilà, c'est le début de la religion, c'est le désir, le réflexe inné qu'on observe dans tous les peuples. cette tentative de communiquer avec un être supérieur. Donc la génération d'Enoch commence à prier. Parce que si, comme grand-maman Ève l'enseignait, c'est Dieu qui donne la vie, n'est-il pas à l'origine aussi de toutes les bénédictions qu'on trouve sur la terre? La nourriture, l'abri, la musique, l'art, l'amitié. Comme Jacques dit dans Jacques 1, verset 17, « Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. » Donc Enoch commence avec sa génération à invoquer le nom du Seigneur, à prier, à demander la pluie pour avoir des bonnes récoltes. Il commence à chercher l'aide et la bénédiction de Dieu sur la vie quotidienne. C'est vraiment un bon début. C'est un bon début pour vivre avec Dieu, pour construire sa vie avec Dieu. Malheureusement, je sais que vous connaissez ces premiers chapitres de Genèse, mais le péché grandit dans le cœur de l'homme. La jalousie, la colère produisent le meurtre, la violence, le racisme, le sexisme, ça va grandissant. Et il suffit pour nous de mettre la télévision pour regarder les infos et on voit chaque jour la véracité du récit biblique. On voit la véracité de ce diagnostic qu'on trouve dans ces premières pages de la Bible. Et Noé, lui, il va naître dans ce monde-là, ce monde où le péché, la violence se rabondent. On entend précisément de lui pour la première fois, donc dans Genèse 5, la généalogie. Et c'est dans chapitre 5, et je crois qu'on a un slide qui va avec ça aussi. Donc, chapitre 5. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit, et il les appela du nom d'humain, Adam, le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien m'aider à lire? Bien. On est dans la généalogie de Genèse 5. Si tu peux venir. Merci, Lydiane. Je lis là. Et est-ce que tu peux... Tu m'interromps. Ok. Je suis désolée, on est dans une généalogie, c'est un peu long. Seth vécut 500 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Seth vécut 807 ans, il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Canaan. Après la naissance de Canaan, Enoch vécut 815 ans, il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 905 ans, puis il mourut. Canaan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalaleel. Après la naissance de Mahalaleel, Canaan vécut 840 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Canaan fut de 910 ans, puis il mourut. J'ai dit que tous les textes bibliques sont importants. Donc, on va continuer à le lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Oui, oui. Donc, je te charge de la lecture et Liliane va continuer à intervenir sur ces trois petits mots. Donc, voilà, on est rendu ici. Donc, elle lit à chaque fois
les filles
et les fils et les filles.
Mahalalel vécut 65 ans. Puis
il engendra Yéred. Après la naissance de Yéred, Mahalalel vécut 830 ans. Il engendra des fils
et des filles.
La totalité des jours de Mahalalel fut de 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Yéred vécut 800 ans. Il engendra des fils
et des filles.
La totalité des jours de Yéred fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Méthusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans, encore après la naissance de Méthusalem. Il engendra des fils
et des filles.
La totalité des jours de Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut 782 ans et il engendra des fils
et des filles.
La totalité des jours de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il appelait du nom de Noé, en disant « Celui nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. » Après la naissance de Noé, Lémec vécut 595 ans, et il engendra des fils
et des filles.
La totalité des jours de Lémec fut de 777 ans, puis il mourut. Noé vécut 500 ans, puis il engendra Sem, Ham et Japhet.
Merci pour votre aide. Je ne sais pas si on a des très doués qui ont fait le compte de tous les allées. Moi, je n'ai pas essayé, c'est un peu peine perdue. Donc, cette généalogie, il y a toujours des choses à apprendre. Dans les généalogies bibliques, là, on apprend plein de choses. L'auteur, il veut insister sur le fait que si Adam est à l'image de Dieu et Seth est à l'image de celui qui l'a engendré, eh bien, Seth aussi est à l'image de Dieu. Donc, malgré la chute, malgré la présence du péché, les êtres humains sont toujours l'image de Dieu. Amen. On voit aussi que l'auteur insiste de façon systématique sur le fait que les filles aussi sont engendrées, donc à l'image de leur père. Amen. C'est très important. Et on voit ici, bien sûr, une reprise de Genèse 1, où mâle et femelle sont créés à l'image de Dieu. C'est une reprise qui nous rassure. Après la chute, Dieu n'a pas changé. La constitution de l'humanité. Dieu n'a pas modifié son plan. On apprend aussi que malgré l'image de Dieu éternel qui demeure dans l'humanité, les êtres humains finissent tous par mourir. On voit aussi que l'auteur distingue deux personnes dans cette généalogie. Au verset 8, il distingue Enoch. En disant Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Donc on a Enoch qui commence à prier, et on a Enoch qui marche avec Dieu et qui, il est dit que Dieu le prit, que Dieu l'enleva avec lui, il est dit dans d'autres versions. On peut représenter ça par une chaise. J'ai pas de chariot glorieux qui va monter au ciel, mais on peut, voilà. Enoch, il échappe à la mort parce que Dieu lui enlève. On peut représenter ça par cette chaise. Quelque chose de spécial. Et ça arrive parce que il marche avec Dieu chaque jour. Il priait, il communiquait avec Dieu. Il s'attendait à quelque chose, une bénédiction de la part du Dieu de la vie. Parce que ce que Dieu voulait depuis le départ pour chacun de nous, c'est avoir une relation avec nous. Il désire nous connaître, avoir une relation avec nous. Il échappe à la mort. Et la deuxième personne distinguée qui ressort de cette généalogie, c'est Noé. Et son père, le mec, disait de lui, « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. » Voyez comment le mec décrit la vie comme une vie de travail pénible. Je ne sais pas si vous aimez votre travail ou pas. Certains, on peut estimer que c'est vraiment une bénédiction quand la bonne personne trouve le bon travail et que le travail peut être quelque chose de quelque chose d'agréable dans la vie. Apparemment, le mec, c'est parce qu'il vivait et on sait qu'avant la chute, le travail était joyeux. C'était quelque chose de facile. Il y avait la place pour la créativité. Et la terre donnait librement ses fruits. Il n'y avait pas de mauvaises herbes, pas de pesticides, pas de sécheresse. Mais après la chute, c'est le renversement. Cultiver la terre, c'est épuisant. Construire une maison, c'est du boulot, ça coûte cher aussi. Et réussir son mariage, élever ses enfants, c'est un énorme challenge. Et d'ailleurs, le mec, comme Marc disait il n'y a pas longtemps, le mec, c'est le mec qui a eu l'idée d'inventer la polygamie. Donc, il avait deux femmes. Pas étonnant que ce n'était pas facile, mais il allait contre le plan de Dieu qu'on trouve dans Genèse 2. Un homme et une femme s'unissent pour devenir une seule chair. Le mec, il trouve que la vie est difficile et il annonce que son fils Noé sera une consolation. Je pense que le mec pensait à lui-même le fait que Noé allait pouvoir le seconder, peut-être dans l'entreprise familiale, si on peut dire les choses comme ça. Donc voilà qui les origines de Noé. Il fait partie de la 10e génération après Adam et Ève. Il est dans la lignée de Seth, ce fils attribué, Enoch qui commence à prier et Enoch qui marche avec Dieu et qui est enlevé. Il naît dans un monde tragique où la vie a été rendue difficile et violente à cause des conséquences de la chute. Et le meilleur espoir pour bien s'en sortir, c'est de prier, c'est de se tourner vers Dieu. Alors que fait Noé dans ce monde-là? Comment fait-il pour réussir sa vie, pour avoir une belle vie dans ce monde-là? C'est le prochain diapo. Comment fait Noé? Et on va trouver une réponse dans Genèse 6, versets 5 à 7. Le Seigneur vit, on peut changer de diapo aussi. Je suis désolée, c'est un peu coupé ici. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Je pense que ces versets sont parmi les plus tristes de toute la Bible. Et c'est en ce moment, quand vous regardez les infos, quand vous voyez les images de guerre et de violence, ou bien d'inondations, de sécheresse, de toutes ces choses causées par l'humanité, les actions de l'homme, si vous vous sentez attristé lorsque vous voyez le chaos politique dans notre monde, sachez que Dieu aussi est attristé. Si tu as le cœur affligé, sachez que Dieu aussi a le cœur affligé. Tu n'es pas seul. Et Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas affaibli. Sa justice n'a pas été annulée. Dieu n'est pas vaincu. Il agit contre le mal. Et dans Genèse 6, il dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, car je regrette les avoir faits. Ce n'est pas que Dieu dit, oups, j'ai fait une erreur. J'ai raté ma copie. Donne-moi une gomme pour que je l'efface. C'est pas ça. L'humanité est à l'image de Dieu et Dieu ne peut pas considérer sa propre image comme une rature. Mais il parle ainsi pour que l'humanité apprend à ressentir le regret, la tristesse provoquée par le péché. Ça s'appelle la repentance. La Bible formule les choses ainsi pour que l'on prenne conscience à quel point le péché gâche l'image de Dieu en chacun de nous, dans l'humanité. Donc, depuis le début, Dieu agit pour éradiquer, pour effacer le mal, juger le péché et même le pécheur. Mince alors. C'est donc la fin de l'humanité, au chapitre 6 de la Bible. Ça fait une toute petite Bible. Et de toute façon, plus personne pour la lire. Et dans ces circonstances, c'est donc fini pour Noé et ses trois fils, Sem, Cham et Japhet. C'est pas la peine qu'ils se lancent dans la construction d'une maison, par exemple, ou qu'ils se marient. Dieu va éliminer le péché du monde en éliminant tout le monde. Et en tant que créateur, il a le pouvoir de le faire, il a le droit de le faire. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est le verset 8. L'histoire va continuer. Je sais, vous le saviez. Mais c'est le mais de la grâce. Même dans l'Ancien Testament, nous trouvons le mais de la grâce. L'humanité mérite d'être jugée, anéantie, mais Dieu a un plan de salut. Enoch, lui, a reçu un mais miraculeux, échappé à la mort. Noé reçoit le mai de la grâce, continuer à vivre sur la terre, que nous pouvons représenter pas par une chaise, mais par un parapluie. Ça aide, hein, quand il pleut, d'avoir un parapluie. Donc, ce plan de salut passe par la descendance d'Ève, par la lignée de Seth, Enoch, Enoch et Noé. Qu'est-ce que Noé a fait pour trouver grâce aux yeux du Seigneur? On lit au verset 9. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Il est dans cette tradition qui s'est créée de marcher avec Dieu. Ce n'est pas que Noé était sans péché, mais il était dans la lignée de ceux qui se souvenaient sans doute de la tradition orale lancée par Ève. Elle enseignait que Seth était un fils attribué par le Seigneur. Donc Noé était dans la lignée de ceux qui croyaient ça et donc qui invoquaient le Seigneur pour marcher avec Dieu. Il n'y avait pas encore la loi, aucun enseignement sur la foi, simplement le fait de reconnaître Dieu en tant que créateur, souverain, auteur de la vie, celui qui promettait une victoire future sur le serpent, celui qui a provoqué la chute. Donc Noé, lui, il trouve grâce, il marche selon cette promesse et tout va bien. Prochaine slide. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Tout va bien. La terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tout s'était perverti sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tout s'est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Noé a beau trouver grâce aux yeux de Dieu, être un homme exceptionnel avec une famille magnifique. N'empêche que le jugement arrive. 5 fois dans ces quelques versets, Dieu évoque la raison pour cela. La perversion et la violence sont partout sur la terre. Voilà. Le texte insiste vraiment là-dessus et pour nous dire que Dieu est justifié dans son action. Il veut que Noé le comprenne. Et l'auteur de la Genèse, il veut que nous, on le comprenne. Il y a un moment où Dieu dit, stop, ma patience a une limite et le jugement arrive pour faire cesser le mal. Bon, tant pis pour Noé et ses trois fils alors. Mais non, c'est pas la fin de l'histoire. Dieu dit à Noé, fais-toi une maison, construis-toi une belle baraque selon tes envies et je te bénirai. Oui? Non. Dieu ne dit pas à Noé de bâtir sa vie et celle de ses enfants comme si de ne rien n'était. C'est pas ça. Donc on va continuer la lecture. Dieu dit à Noé, fais-toi une, je crois que j'ai des slides aussi, voilà, une belle baraque. Ça ne correspond pas à... Construis-toi une cabane en bois. C'est quelque chose de plus modeste, plus humble. Non plus. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche en bois de résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit au-dedans et au-dehors. Voici comment tu la feras. L'arche sera 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. J'aurais aimé montrer l'image, peut-être qu'on le trouvera. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée. Disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Simple. Quant à moi, je ferai venir sur la terre le déluge, les eaux, pour anéantir tous ceux qui ont le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc, j'avais une image qui va peut-être venir. Dieu demande à Noé de construire quelque chose. Quelque chose, voilà, ça c'est la belle baraque, c'est pas ça. Ensuite, petite cabane en bois non plus, mais ça. Et cette image-là, vous voyez, il y a des personnes, ça vient de ce que, ça vient de, c'est pas la, le projet de l'arche, c'est, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est un lieu qu'on peut visiter aux États-Unis où ils ont essayé de suivre les indications de la Bible pour dire que la Bible serait aussi grand que ça. Est-ce qu'ils ont, on peut visiter ça apparemment. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à trouver les bonnes dimensions? Je ne sais pas. Mais voilà, ça donne l'idée que Noé devait construire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de grandiose, du jamais vu ou imaginé par le cœur humain. Une immense arche. Quelque chose d'innovant, parce que il n'y avait pas trop de navires. À l'époque, il n'y avait pas de paquebot. Et le mot arche, teva, ne signifie pas navire ou même bateau. Ça signifie plutôt coffre ou boîte. Ça pourrait même signifier cercueil. Donc, qui voudrait naviguer sur la Loire dans une grosse boîte en bois? Non. Et quand on va en Angleterre, on ne prend pas le cercueil, mais le ferry. Donc, ça souligne à quel point cette construction, c'était comme ça ou pas comme ça, c'était quand même un exploit extraordinaire de l'ingénierie divine. Et si Noé ne respecte pas le projet tel que Dieu l'a conçu, ça ne marchera pas. L'arche, ce gros coffre en bois, ne flottera pas sur les eaux. Il faut que Noé suive les indications du Seigneur. Et Noé obéit à Dieu. Parce que Noé a l'habitude d'invoquer son nom, Dieu lui donne un moyen d'échapper au jugement qui vient. Et le salut de Noé et sa famille passe donc par la foi et l'obéissance. Noé doit croire cette parole de Dieu et lui obéir. Il doit mettre sa foi en pratique et construire cette immense arche du jamais vu. Quelque chose qu'il rendait peut-être certainement insensé aux yeux de ses voisins. On peut imaginer que les voisins se moquaient de lui. Ça a dû prendre quelques mois de travail quelques années et que tout le monde voyait ce que Noé essayait de faire. Voici la promesse que Dieu donne à Noé. Il donne des instructions, mais aussi une promesse. J'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, tes femmes et les filles de tes fils avec toi. On est toujours dans le « et tes filles ». De toutes sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. De chaque espèce parmi les oiseaux, le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends tout ce qui se mange et fais-t'en des provisions, cela te servira de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé fit exactement ce que Dieu avait ordonné. Donc Noé suit fidèlement les indications du Seigneur et il entre dans l'arche le jour où Dieu lui ordonne de le faire. Et qu'est-ce qui se passe le jour du déluge? Le gros coffre en bois flotte. Il porte Noé et sa famille sur les eaux et ils sont sauvés du jugement de Dieu et de la mort. Et une fois montés dans l'arche, que fait Noé? À part se nourrir des provisions qui sont déjà là, nourrir les bêtes. Que fait Noé? Rien. Noé n'a rien à faire. Il se laisse porter par l'arche sur les eaux. Ce n'était pas un navire dont il était le capitaine. Il n'y avait aucun instrument de navigation. Il n'y avait pas de voile. Il n'y avait pas de gouvernail. Il ne s'agit pas d'un voyage à travers les océans. C'était la provision de Dieu. Noé et sa famille n'avaient rien à faire. Ils contrôlaient rien. Ils ne dirigeaient rien. Une fois montés dans l'arche conçue par le Seigneur, ils avaient juste à se laisser porter, à attendre et à se nourrir des provisions qui étaient là dans l'arche. Et l'arche, c'était le moyen de salut donné par Dieu. Et comme Dieu s'est reposé de ses œuvres le septième jour après la création, Noé s'est reposé de ses œuvres. Noé, sauvé à travers les eaux, Noé, sauvé dans l'arche, c'est vraiment une image de ce que la Bible appelle le repos par la foi. Voilà, il s'accroche à quelque chose de plus solide que lui. Pardon. Noé s'est reposé de ses œuvres. Et oui, c'est ça. Le nom de Noé, ça signifie repos. Noé signifie repos. Et une fois que nous sommes montés dans l'arche du salut construite par Jésus-Christ, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à nous reposer sur Christ, à faire confiance à celui qui a vaincu le serpent à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons rien faire pour gagner ou mériter notre salut. Ouf, parce que si on devait gagner ou mériter notre salut par nous-mêmes, on ne serait jamais assez juste, jamais assez saint. Il y a juste à nous reposer sur l'œuvre de Christ, dans l'obéissance de la foi. Donc l'arche de Noé, cette histoire qu'on considère parfois pour enfants, c'est l'image du salut par la foi. Jésus-Christ, c'est notre arche du salut. Et puisque nous sommes en Christ, nous pouvons vivre et expérimenter le repos de la foi et lui faire confiance. On peut avoir l'assurance de notre salut. Et parfois, quand on est jeune chrétien, moi je me souviens, on n'a pas toujours cette assurance de notre foi. On se dit, j'y arrive pas, je fais plein d'erreurs, j'ai des tentations. Et on doute, on peut douter beaucoup de nous-mêmes et ne pas avoir l'assurance de la foi. Toutes les provisions sont là en Jésus-Christ. son Saint-Esprit. C'est lui qui va nous amener à la maturité, afin qu'on ne reste pas toujours un petit gamin en train de crier, de piquer des crises de rage. On ne sera pas, c'est par Jésus-Christ qu'on ne sera plus brut de pomme, mais qu'on deviendra cette brique taillée et utile. Amen. Et on n'est donc pas surpris de voir que Noé est mentionné dans le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament attirent notre attention sur cette histoire. Ils ne disent pas « Oups, ça c'était pour les enfants ». Non, c'est pour nous. Noé, il est mentionné dans Hébreux 11. C'est un des héros de la foi. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. L'apôtre Pierre en parle aussi dans ses deux épîtres. Il compare Noé et sa famille sauvés travers les eaux au baptême d'eau. L'arche, ça peut vouloir dire cercueil. Donc le baptême représente la mort à nous-mêmes, mais après on revient à la vie. Pierre qualifie Noé aussi de héros de la justice, un prédicateur qui avertissait ses voisins du jugement à venir. L'arche, la construction a pris tellement de temps qu'il avait le temps d'expliquer à ses voisins ce qui se passait, à sa famille, à ses amis. La Bible dit, Pierre dit que seulement 8 personnes étaient sauvées, Noé et sa famille proche, mais il y avait sûrement la place dans l'arche pour d'autres personnes. Ils ont choisi de ne pas monter. On a clairement une reprise de la création ici quand ils sortent de l'arche. Là, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro avec les animaux, les êtres humains qui sont montés dans l'arche et qui sortent. C'est comme un nouveau départ. Mais à la sortie de l'arche, le péché existe toujours. Mais la famille de Noé et leurs descendants, ils auront toujours la possibilité de marcher avec Dieu, de le prier, de rester dépendant de lui. Jésus lui-même parle de Noé lorsqu'il évoque les temps de la fin dans Matthieu 24. Vous pourrez chercher toutes ces références à Noé dans le Nouveau Testament. Il dit que la période qui précède le retour de Christ va ressembler au jour qui précédait le déluge. Les gens vont vivre leur vie comme si de rien n'était, dans des belles maisons, dans des cabanes en bois, comme si de rien n'était. Et aussi, bien sûr, Noé figure dans la généalogie de Jésus, en Luc 3, verset 36, parce que Jésus-Christ est l'aboutissement de cette lignée qu'Ève déclarait attribuée par Dieu. Jésus, c'est la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et le jour où le mec souhaitait que son fils soit une consolation au milieu de sa vie qui était difficile, il est loin d'imaginer que l'alliance de Dieu avec Noé deviendrait un symbole de la consolation offerte au monde entier en Jésus-Christ. Et voilà, on voit ça dans les livres pour enfants, ces images de l'arc-en-ciel qui symbolisent la promesse de Dieu. Il ne va plus jamais envoyer le déluge sur la terre. Mais voilà, par la suite, on connaît la suite de l'histoire. La consolation de Noé va être pleinement réalisé dans la nouvelle création après le retour de Christ et le jugement final. Comme on le lit dans Apocalypse 21 et comme on a entendu tout à l'heure dans une prière, la demeure de Dieu est avec les humains et il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même qui est Dieu avec eux Jésus-Christ sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Donc, pensez à ce verset la prochaine fois que tu mets la télé et tu te sens submergé par la tristesse, par la souffrance, le mal dans ce monde. Il y a un arche de salut que Christ a préparé, prépare pour le salut de tous ceux qui veulent bien y entrer. Et donc notre espérance, notre espoir n'est pas limité aux choses matérielles, ce qu'on peut construire dans cette vie. Notre espérance va au-delà. Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, en qui nous avons le salut, la vie éternelle. Et nous allons vivre avec lui, non pas en flottant sur des petits nuages, mais dans la nouvelle création, une terre renouvelée. L'histoire de Noé nous enseigne à aimer ce que Dieu a créé, l'être humain à son image, la famille, la création, et même les animaux sont montés dans l'arche avec Noé. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu, mais ils témoignent de la gloire de Dieu. Et ils nous ont été confiés, nous sommes appelés à respecter et à conserver la création du Seigneur. Jésus est en train de bâtir son arche de salut, l'Église, et nous la construisons avec lui. Est-ce que vous avez cette vision de l'Église comme l'arche du salut? C'est le moyen que Dieu a donné pour le salut du monde. Si Moïse avait suivi la tradition qu'on a aujourd'hui, où sur un bateau, sur un navire, on met un nom. Quel nom est-ce que Noé aurait mis sur l'arche? Salut? Pardon? Je vous avais averti. Monte dedans vite. Venez vite. Trouvez le repos, le salut. Voilà, c'est pas simplement une histoire pour les enfants. C'est vrai que c'est devenu quasi mythique parce que les images sont fortes. Dieu, il est créatif pour montrer des images fortes dans sa parole. Mais tous les thèmes qui sont derrière sont d'actualité et parlent à notre cœur. Amen. Je vais terminer en priant. Ces histoires dans la parole, vraiment dès le début de la Bible, pour nous faire réfléchir, pour nous expliquer la condition humaine, pour expliquer ton amour pour l'humanité, pour expliquer la nécessité de faire cesser le mal, mais aussi ton plan pour sauver l'être humain, ton amour pour l'être humain, parce que nous sommes faits à ton image. Ô Seigneur, donne-nous de chérir ton image en notre cœur, que nous puissions nous laisser travailler par le Saint-Esprit pour être taillés, pour être transformés en l'image de Jésus-Christ. Ô notre Dieu, tu fais cette œuvre. Merci Seigneur, nous croyons que tu es en train de faire cette œuvre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aide-nous à communiquer Seigneur ton œuvre, tes plans à nos enfants. Et nous voulons prier aussi pour nos voisins Seigneur, pour nos contemporains, pour qu'ils puissent venir se réfugier dans l'arche du salut auprès de toi Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Nous demandons de la bénir et de continuer à nous parler dans la semaine à venir afin qu'elle puisse porter des fruits dans notre vie. Merci d'encourager ceux ce matin qui ont le cœur affligé. Oui Seigneur, tu viens les consoler par ton Saint-Esprit et nous attendons cette consolation que nous aurons à l'avenir lorsque nous serons auprès de toi sur la nouvelle création. Sois béni, Jésus. Amen.